Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Vendeurs de canons, faites vos jeux. L'industrie de l'armement ukrainienne devrait bientôt s'ouvrir aux investissements étrangers. Déjà, des sociétés américaines, anglaises et allemandes se positionnent pour acheter les start-up du secteur. Quid des Français? Sont-ils en retard d'une guerre? Pour en parler, je reçois Matt Hauser, cofondateur de la société d'intelligence économique Stratéon, particulièrement focalisé sur l'économie ukrainienne. Bonjour Matt Hauser.
Bonjour Monsieur Lady.
En un mot, votre société, pourquoi ce choix sur l'Ukraine?
Pour nous, l'Ukraine a une avance sur énormément de secteurs, notamment dans le secteur de la défense, le domaine de la défense. Et on considère aujourd'hui que ça peut être un bon moyen de renouveler un petit peu la BITD, l'écosystème de la défense français, de s'intéresser au monde ukrainien. Où après 3 ans de guerre, ils ont effectivement des innovations, des façons de produire, des façons d'agir.
Et une expérience.
Une expérience, évidemment, intéressante pour la France. Voilà. Ouais.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que l'Ukraine a besoin d'armes, notamment de l'étranger, mais on considère que 30% de l'industrie, c'était avant, un grand fournisseur de l'industrie soviétique, il fournissait 30% de l'Union soviétique, en chars, en missiles, etc. Donc c'était un grand acteur quand même.
Exactement. C'était un très grand acteur. Ça a été pendant très longtemps ce qu'on appelait le grenier à armes de l'Union soviétique.
Pas seulement le grenier à blé.
Exactement. C'était le grenier à blé, mais aussi le grenier à armes, tel que le disent les Russes à l'époque. Sauf qu'évidemment, à partir de 2015 et l'invasion de la Crimée, les événements de Maïdan, l'Ukraine en fait produisait essentiellement de l'armement soviétique, post-soviétique. Et leur principal, acheteur, c'était la Russie, en fait, qui voulait moderniser et reconstruire et réparer ses engins en Ukraine. Mais évidemment, ils ont bloqué leurs exportations vers la Russie. Donc aujourd'hui, l'enjeu des Ukrainiens, et notamment depuis 2015, mais surtout depuis 2022, c'est de donner un nouveau souffle à cette espèce d'énorme, gigantesque écosystème de défense locale, puisqu'ils ont une industrie qui est absolument énorme. Ils ont aussi surtout des très bonnes universités qui forment de très bons ingénieurs dans la défense. Donc aujourd'hui, ils cherchent depuis 2015, mais surtout depuis 2022, de nouveaux débouchés pour leur défense. Évidemment, on l'imagine, le conflit a absorbé beaucoup de cette capacité de production et de cette capacité d'innovation. Mais aujourd'hui, ils regardent, encore après le conflit, comment ils pourront transformer cette industrie.
Mais en même temps, il semblerait que les industries locales ukrainiennes ne fournissent pas suffisamment d'armes à l'Ukraine et que l'Ukraine va acheter à l'extérieur alors qu'elle pourrait faire travailler ses propres industries.
En fait, c'est encore plus compliqué que ça. Le sujet aujourd'hui en Ukraine, c'est que le ministère de la Défense, malgré un budget de la Défense qui est énorme, aujourd'hui à peu près 50 milliards pour 2025, ce qui est estimé, malgré un très gros budget, il n'a pas la capacité d'acheter suffisamment toute la capacité de production ukrainienne. C'est-à-dire qu'une usine ukrainienne, grosso modo, qui va produire, on va dire, 100 matériels sur une année, c'est vraiment un exemple théorique, 100 matériels, le ministère de la Défense n'a les moyens d'acheter que pour 20.
Ah oui.
Donc les 70 autres ou les 80 autres, ça dépend selon les secteurs, les drones ou les blindés par exemple, ces autres matériels ne sont pas produits parce que les usines ukrainiennes savent qu'elles ne pourront pas le vendre au ministère de la Défense ukrainien. Oui.
Résultat, 30% de ces besoins d'armement sont achetés à l'extérieur.
Alors non, en fait, il y a seulement 30% de la production ukrainienne qui est achetée par le ministère de la Défense et les 70% restants ne sont pas produits parce que, on va en parler si vous voulez, mais en fait, il y a une loi depuis 2022 qui interdit l'exportation d'armes ukrainiennes vers l'étranger parce que le président Zelensky a estimé à l'époque, avec le pouvoir législatif, qu'il fallait que la production intérieure aille en priorité à l'armée. Et donc, il ne fallait pas en fait, que les producteurs locaux puissent vendre à l'export dans un cadre de conflit d'intensité sur leur sol. Ouais. Donc aujourd'hui, la loi interdit aux producteurs d'armes de vendre à l'export, ce qui fait qu'en fait, les producteurs locaux, malgré des capacités de production qui sont assez énormes, en fait, se limitent dans leur capacité de production parce qu'ils savent qu'ils ne pourront pas vendre et écouler à l'export le résiduel. Donc aujourd'hui, pour nous, le sujet, il est en partie là, et c'est un peu aussi la raison de ma venue, c'est qu'une loi va probablement changer ça.
Donc ils vont ouvrir, c'est ça.
Exactement.
Ils vont permettre l'exportation, d'une part, et d'autre part, ils vont accepter des investissements étrangers dans leur écosystème de défense, c'est ça ?
C'est exactement ça. Alors la loi aujourd'hui n'est pas passée, c'est aujourd'hui encore qu'un projet de loi.
Ouais.
Mais certains parlementaires ukrainiens, en fait, estiment que pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, pour soutenir l'industrie de défense également, il faut permettre l'exportation de matériel vers l'étranger et notamment permettre aux entreprises, une fois qu'ils ont rempli leur quota vis-à-vis du ministère de la Défense ukrainien, de pouvoir exporter le résiduel vers l'étranger. Donc ça concerne évidemment les drones. Aujourd'hui, c'est un peu le grand sujet sur l'Ukraine. Mais en réalité, ça concerne aussi beaucoup de types de matériel, des radios chiffrées, des matériels de brouillage et de guerre électronique.
Des munitions,
des blindés, quelques munitions. Ce n'est pas vraiment leur sujet, mais ils en ont quand même. Mais en fait, surtout des matériels qu'on va dire dans la gamme high-tech, low-tech, ça veut dire un peu entre les deux. Ça veut dire des drones qui ne sont pas des drones à 1 million d'euros, mais qui ne sont pas non plus les drones à 300 euros chinois, c'est des drones un peu intermédiaires. Et aujourd'hui, voilà, cette loi est, on va dire, dans les cartons, pour parler un peu crûment. Elle n'est pas certaine d'être passée, mais ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où le conflit sera terminé, l'Ukraine aura besoin que son industrie de défense se pérennise, parce que pour eux, c'est un enjeu de survie, pour deux raisons. Première raison, en fait, c'est de permettre une réinsertion économique de beaucoup de soldats, de beaucoup d'ingénieurs qui travaillent dans le monde de l'armement et qui ont besoin de trouver un travail en Ukraine. Et l'industrie de la défense peut être ce débouché-là. Et l'autre sujet, évidemment, c'est que l'Ukraine a bien conscience que même si la paix est signée demain, le risque d'avoir un nouveau conflit, il reste existentiel. Ouais, donc ils ont besoin d'avoir une industrie de la défense qui reste puissante. Donc pour eux, voilà, c'est cette industrie de la défense doit se pérenniser.
Donc il y a des pays, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Allemagne, qui se sont déjà prépositionnés comment ?
C'est ça. Alors, il y a différentes façons de faire sur le marché ukrainien. Il y a évidemment des entreprises, des grandes entreprises qui ont fait ce qu'on appelle des joint ventures, donc des co-entreprises en bon français, à savoir donc créer une entreprise partant un peu de zéro avec une entreprise ukrainienne. Donc c'est ce qu'a fait Rheinmetall par exemple.
Donc l'Allemand.
Exactement, les Allemands de Rheinmetall sur la production de blindés. Il y a une petite co-entreprise française, il faut le saluer, qui est très récente, avant qu'on ait nos échanges. Command AI, qui est donc une entreprise française qui fait de l'IA militaire, qui est dans un centre d'un partenariat avec l'entreprise ukrainienne qui est un peu équivalente pour avoir des retours d'expérience communs. Mais l'essentiel quand même aujourd'hui de ce qui se fait en Ukraine et des acteurs étrangers qui essayent de capter de la valeur sur la BITD ukrainienne.
La BITD, c'est la base industrielle de défense.
Hein, c'est l'industrie de défense voilà, globale, telle qu'on peut l'appeler. L'essentiel, on va dire, de ces prises de participation, c'est via des investissements, à savoir que les Américains, on en parle beaucoup, mais les Américains, les Allemands, des Britanniques, des Danois, des Néerlandais, quelques Japonais, vont essayer de prendre des participations, donc prendre des parts concrètement dans des startups locales qui ont obtenu de l'innovation ou des briques d'innovation sur des sujets très précis.
Donc elles ont le droit d'investir dans les startups locales ?
Elles ont le droit avec ce qu'on appelle des petits tickets, ça veut dire qu'elles ont le droit d'aider à l'investissement. Mais aujourd'hui, grosso modo, c'est quand même un pari qui est un pari risqué, parce que puisque ces entreprises-là ukrainiennes ne peuvent pas exporter, les Américains, quand ils le font, les Allemands, quand ils le font, ils prennent un risque, parce que c'est des entreprises qui ne sont pas forcément viables. Et on sait très bien qu'à la fin du conflit, aujourd'hui, on estime, après nous, dans notre veille, on a entre 700 et 1200 acteurs qu'on suit, alors avec plus ou moins de régularité. Mais évidemment, on sait très bien que ce marché va se restructurer à la fin de la guerre et que beaucoup des petites entreprises vont disparaître.
Est-ce qu'ils pénètrent aussi en influence, par exemple, des incubateurs sont spécialisés sur l'armement ?
Tout à fait. Alors aujourd'hui, le principal incubateur, on va dire, en Ukraine, c'est un incubateur public qui s'appelle Brave One. Quelque chose qui dépend du ministère de la Défense, du ministère de la Transformation numérique, etc. Donc c'est l'incubateur un peu principal. Mais il y a un ensemble de petits incubateurs, de petites, d'espaces d'échange, de hackathons, ce qu'on appelle des hackathons, donc des espaces d'innovation, qui sont privés et dont certains dépendent de fonds étrangers, de fonds américains notamment. C'est un peu les principaux acteurs.
Donc c'est comme ça qu'ils arrivent à pénétrer le marché.
Exactement. Et en fait, ça leur permet tout simplement, mais c'est une stratégie, pour le coup, il faut saluer leur capacité à aller de l'avant. C'est peut-être ce que devrait faire aussi la France, mais ils ont créé des incubateurs, ils ont créé des espaces d'échange pour identifier les projets qui leur paraissent innovants, intéressants. Et derrière, ça permet de les accompagner, de les orienter éventuellement vers les sujets qui leur paraissent intéressants pour eux, pour leurs intérêts américains, pour in fine, en fait, potentiellement pouvoir les racheter, racheter une partie, ou leur permettre de faire des co-entreprises avec les Américains. Et je prends un exemple juste, si vous voulez, très concret. L'un de ces incubateurs un peu privés est lié, alors je ne vais pas le citer pour éviter de paraître trop offensif, mais est lié directement, on va dire, au réseau de Incutel, ou Incutel qui est
le fonds d'investissement de la CIA,
qui est une autorité publique, il ne le cache pas. Mais voilà, un de ces incubateurs, on a très bien compris, et leur rôle est d'identifier donc des startups qui ont un intérêt stratégique pour les Américains potentiellement.
Ouais. Donc CIA, Incutel, donc c'est parapublic aussi.
Exactement.
Et les Anglais font la même chose avec un fonds parapublic.
Exactement. Les Anglais ont des stratégies un peu similaires. Alors, beaucoup moins, ils vont beaucoup moins en avant que les Américains. Mais eux, ils ont une stratégie qui est aussi très intéressante. C'est qu'ils ont mis en interaction des startups ukrainiennes sur l'innovation, notamment des drones maritimes, qui ont beaucoup agi en mer Noire. Ils ont mis en interaction ces startups avec des ingénieurs et des opérateurs des forces spéciales britanniques qui ont du coup compris comment travaillent les Ukrainiens. Aussi, évidemment, des retours d'expérience conjoints. Les deux se sont nourris l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, ils ont du coup une grosse avance sur les sujets des drones maritimes, les Britanniques, grâce à ce travail un peu qui a été fait depuis 3 ans.
Et donc, les Français sont un peu absents. Et vous dites que c'est dangereux non seulement sous le fait de ne pas pouvoir capter des marchés en Ukraine, mais aussi parce que demain, ils peuvent être des concurrents, et notamment sur le canon César. Expliquez-nous.
Tout à fait. Alors, Donc il y a deux enjeux en fait. Il y a effectivement l'enjeu de se dire qu'on va passer à côté d'une innovation dingue qui a eu lieu depuis 3 ans. Ça veut dire les Ukrainiens ont fait de l'innovation sur plein de briques technologiques, sur les drones, etc. Ça serait entre guillemets idiot de passer à côté, de se priver de ce retour d'expérience. Ça, c'est le premier aspect. Mais il faut être honnête sur ce point-là. Beaucoup de boîtes françaises ont déjà commencé quand même à parler avec les Ukrainiens. Donc il y a quand même des choses qui sont faites. Mais il y a apparemment de prise de participation en entreprise. Et l'autre enjeu, là en revanche, qui est pour moi un enjeu un peu vital et stratégique, c'est aussi pour ça que je suis heureux de pouvoir en parler aujourd'hui, c'est l'enjeu de la concurrence. C'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, on les voit un peu comme, voilà, ils sont dans leur guerre, on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire après, mais grosso modo, c'est quand même un pays qui a des capacités de production assez énormes. On en a parlé tout à l'heure, ça a été une grosse puissance dans l'Union soviétique, et surtout qui produit à bas coût. Mmh. Et l'exemple du canon César, il est bon, c'est que, aujourd'hui, les Français, on a un peu cette forme d'orgueil. D'ailleurs, on a le droit, parce que le canon César a un très bon canon, les Ukrainiens en sont très contents, de se dire, voilà, ce canon, il est indétrônable, on ne pourra jamais nous concurrencer sur ce canon-là. En fait, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en Ukraine, les Ukrainiens produisent leur canon Bogdana 155 mm.
Ah, un canon 155 aussi.
155 aussi, c'est quasiment les mêmes performances. D'accord. Alors, il y a évidemment des petites nuances, les professionnels, pour voir les différences qu'il y a sur ces matériels. Mais concrètement, ce canon-là, même s'il est un peu moins bon que le César, il coûte 2 à 3 fois moins cher. Et évidemment que la France achètera toujours français, et ça, c'est une certitude, mais la capacité de l'industrie de défense française à exister et à permettre à la France d'assumer sa souveraineté, elle vient aussi de notre capacité à exporter, notamment exporter le César pour pré-produire aussi pour la France. Et si demain, les Ukrainiens sont capables de nous concurrencer sur ces sujets-là, pour nous, il y a un vrai enjeu de souveraineté à envisager. Et l'enjeu pour nous, c'est de travailler avec les Ukrainiens plutôt que d'essayer de les voir comme des concurrents.
Merci beaucoup, Matt Hauser, pour vos réponses.
Avec plaisir, monsieur.
L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.